Alors on est dans cette série hein, de marcher avec les autres. On avait vu Bible en main l'importance de d'encourager, l'importance de faire du bien, l'importance de témoigner, d'être un témoin et l'importance d'accompagner. C'était la semaine dernière. Et pour terminer en cette fin d'année 2025 un peu cette introduction à marcher avec les autres, j'aimerais voir avec vous un autre principe clé laissé par Jésus, et cette fois-ci peut-être un peu de façon plus moins large, mais qui est plutôt restreinte, communautaire, dans l'Église, entre frères et sœurs. Et c'est le mot que j'ai retenu comme « protéger ». Alors on va peut-être rester un peu dans un élément, Steven est entré dans ce culte, on va dire dans un aspect un peu moins joyeux, moins festif, dans le sens que l'on peut être accablé, mais je vais continuer un peu dans cette lignée. « Protéger », il y a l'idée de protéger notre marche ensemble. Et comment on protège notre marche ensemble? Mais en fait, en traitant le péché. L'Église n'est pas une communauté parfaite. Nous sommes en route. Et trop souvent, le péché, comme par une parole, par une attitude, un comportement, vient impacter nos relations. Elle va créer des blessures, elle va créer des divisions et parfois va détruire tout l'état d'esprit d'un groupe. Et je crois que la mise en pratique qu'on va voir ce matin aurait bien évité des scandales entre nous, bien des tensions inutiles dans la vie du croyant. On a probablement tous en tête telle ou telle situation ou une blessure invisible dans une relation qui n'est clairement pas un fruit de l'esprit ronge petit à petit la relation et peut-être la vie du groupe. Dans l'Église, nous sommes appelés à nous protéger mutuellement les uns les autres contre le péché. Et c'est le lieu pour cela. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à réfléchir un peu à cette culture qu'on aimerait développer dans l'Église, où on confronte honnêtement et avec grâce notre péché. Qu'on confronte ces attitudes qui n'ont pas plus la place dans nos vies. Et je sais que ce sujet est délicat parce qu'il y a deux pièges. Soit on se retient d'en parler pour préserver la paix, nos échanges, quitte à sacrifier la sainteté et la vérité. D'ailleurs, on se dit souvent, mais qui je suis, moi, pour relever telle ou telle chose dans la vie de l'autre? Soit on a un excès de zèle ou une attitude moralisateur, on pointe du doigt le péché de l'autre pour montrer sa propre justice. Et dans les deux cas, c'est notre soi qui est au centre. Et la question que je nous pose ce matin, pour introduire, est-ce que nos conversations, notre soin qu'on a de marcher les uns avec les autres, reflètent la réputation et le caractère de Christ? L'honneur de notre Seigneur auquel nous appartenons. Et je crois que l'Église, c'est le lieu où nous devons parler, oui, de la grâce, de la bonne nouvelle, de l'évangile, du sang qui a été versé et qui restaure tout cela, mais on a aussi cette exigence de rappeler que le péché a perdu son pouvoir et que son attrait dans la vie de ceux qui confessent son nom n'a plus de droit. Mon positionnement devant Dieu est réglé, il me voit pardonné, mais nous avons la responsabilité de continuer à cheminer, que le Seigneur continue à travailler, ces aspects de nos vies qui ne le reflètent pas et qui ne sont clairement pas à sa gloire. Cette grâce qui libère est encore aujourd'hui à l'œuvre pour nous décharger, pour nous travailler. Peut-être vous cherchez le pardon, la restauration, on est accablé de votre culpabilité, ben voilà, on veut s'encourager à regarder à l'Évangile. Jésus nous invite à le vivre. Alors on doit avoir des conversations profondes et honnêtes dans notre marche avec les autres pour protéger, pour éviter que le péché et que ces attitudes qui n'ont plus leur place dans notre vie détruisent nos vies, nos familles et notre Église. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'écouter ce que le Seigneur dit, texte peut-être très probablement connu par la plupart d'entre vous, c'est dans Matthieu 18. Je vous invite vraiment à prendre la parole de Dieu sous les yeux. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles à l'arrière. Je vais lire dans la traduction Colombe, Matthieu 18, au verset 15 à 22. Voici ce que Jésus dit au sujet de la gestion du péché. Si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à sept fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, je te dis jusqu'à 70 fois sept fois. Passage met en lumière clairement cette vérité. Nous sommes responsables les uns des autres dans notre marche avec le Seigneur par rapport au péché. Et cette responsabilité s'adresse non seulement à nous qui sommes croyants, mais témoigne quelque part d'une vérité profonde sur la nature humaine. Le péché brise, le péché divise, le péché détruit si on ne le traite pas. Et Dieu offre un pardon qui est généreux, capable de restaurer ce qui a été brisé. Et c'est cette espérance qui nous soutient et que nous sommes appelés à partager. Le péché, c'est pas simplement un problème qui est personnel à soi, parce que ça peut briser la confiance, ça peut blesser profondément l'autre, ça peut détruire, comme je disais déjà tout à l'heure, la dynamique d'un groupe, voire d'une église tout entière. Et là, Jésus nous responsabilise qu'on a besoin de protéger et de traiter. D'abord, on le voit dans un dialogue qui est privé, puis, si nécessaire, le cercle doit s'agrandir. On voit souvent le cercle grand plutôt que de voir la première étape. Chaque étape vise pas la condamnation, mais on le sent, mais vise la restauration. Et je crois que dans notre vie d'église, il est essentiel de développer cette culture où on aborde le péché avec honnêteté, mais avec grâce. Mais avec douceur, avec courage, avec compassion, avec vérité et miséricorde. Voilà comment je résumerai l'enseignement de Jésus dans ce texte. Dans l'Église, on est émerveillé par le salut. Nous sommes responsables de protéger la communion fraternelle en confrontant le péché avec grâce. Alors, je vais le faire en relevant 5 éléments dans ce texte. On voit que d'abord, il y a cette première responsabilité d'agir face au péché, sans détour. Vous avez remarqué, si au verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Jésus dit « va ». C'est un appel clair à la confrontation. On a le devoir de prendre l'initiative d'aller vers l'autre qui s'égare. Alors la partie suivante du grec n'est pas toujours facile à traduire, hein. Comme le montre peut-être la variété des traductions, mais il y a l'idée de « va et montre-lui sa faute » ou « aborde la question avec lui » ou « explique-toi avec lui ». La colombe que je viens de lire a traduit « reprends-le ». C'est ce que le verbe signifie souvent, mais « va et reprends-le ». En fait, on le voit, il s'adresse pas à des pasteurs ou à des responsables d'église. Ça s'adresse à tout le monde. C'est bien à chaque membre du peuple de Dieu que Jésus confie le devoir de confronter le péché d'un autre croyant. Vous avez peut-être en tête cet autre enseignement de Jésus qui dit aussi dans l'évangile de Matthieu, hein, qui insiste sur cette priorité-là de réconciliation fraternelle. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. On est dans cette même démarche, règle. Que le péché qui a été commis contre nous, ou que ce soit nous qui avons péché contre l'autre, le but est de réconcilier, de restaurer, de travailler, de gagner son frère, nous dit le texte, de pouvoir marcher ensemble. Peu importe qui a commencé, on est responsable d'amorcer la démarche de restaurer et de traiter ce sujet. Et l'apôtre Paul, dans la même idée, dans Galates, va nous dire ceci. « Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Ici, quand il y a écrit spirituel, il y a l'idée, dans le contexte de Galates, c'est les fruits spirituels de la marche avec le Saint-Esprit. C'est tous les croyants, en fait. Vous qui êtes croyants, vous êtes responsables lorsque l'autre chute. On est appelé à nous secourir mutuellement dans la lutte contre le péché. C'est vite dit, hein. C'est pas si simple. La Bible ne nous donne pas l'option de fermer les yeux, de rester passif, ou d'espérer que le problème va disparaître par lui-même. Au contraire, Jésus nous enseigne que le problème du péché doit être traité dans la lumière, avec transparence. Sinon, il ne devient que plus sérieux et épineux. On le sait, hein, ceux qui font un peu de la médecine, une infection invisible qu'on laisse traîner. Au début, ça semble rien. Mais si on ne le soigne pas, va se propager et va mettre notre corps entier en danger. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire, traiter à la racine ce péché, ces attitudes qui n'ont pas leur place parmi vous. Bien sûr, ce passage parle de péché réel, avéré, pas d'une simple offense ou d'un malentendu. Le but de Jésus n'est pas d'être moralisateur, mais de gagner son frère, de restaurer la relation qui est abîmée, d'aider à cette marche commune, de marcher les uns avec les autres, agir face au péché. Imagine, Jonathan vient te rapporter des propos blessants tenus par Sarah. Que fais-tu? Comment dois-tu réagir? Je me dirais, est-ce que, avant de t'en remettre à un tiers ou d'en parler, est-ce que tu es allé voir Sarah? Est-ce que tu lui en as parlé? Toi-même? Jésus ici nous appelle à une démarche prioritaire, personnelle. Moi et mon frère. Ou moi et ma sœur. Sauf en de rares exceptions, toute conversation portant sur le péché d'une tierce personne devrait être dans ce vis-à-vis. Peut-être que tu as besoin de confesser ton propre péché, ça c'est autre chose, et que tu veux assumer ta part de responsabilité et tu veux demander pardon, et tu veux confesser avoir mal réagi alors qu'on t'a fait du tort. Soit tu aimerais en discuter, de savoir comment je veux aborder et encourager cette personne à grandir dans sa marche avec le Seigneur. Mais cette démarche du un à un doit protéger la réputation et va favoriser la réconciliation. Le deuxième aspect un peu de ce premier verset 15, c'est aussi que nous, on doit être tenus d'être ouverts à ce qu'on soit repris, à ce qu'on reçoit un tel retour. La transparence qu'on est appelé à cultiver. Nos vies doivent être accessibles pour que l'autre puisse nous aider à progresser aussi. Notre vie ne consiste pas à adopter certaines attitudes, à sauver les apparences, mais à faire preuve d'honnêteté avec les domaines dans lesquels nous devons travailler. Que ce soit sur notre couple, nos finances, nos luttes, nos mauvaises habitudes, nos inquiétudes. Et là, on est dans le registre de ce que je vous avais encouragé la semaine dernière, à nous accompagner, à avoir un grand frère ou avoir un petit frère ou une grande sœur pour nous accompagner dans cette marche où on veut grandir dans les pas du Seigneur. Cette transparence est appelée à être contagieuse. Accompagner. Prenons, mes amis, aux responsabilités au sérieux ce que Christ nous confie. Luttons contre cette passivité à fermer les yeux. C'est sa vie personnelle. Évitons peut-être aussi ces bavardages stériles qui parlent du péché de l'autre dans son dos sans jamais les confronter. Le nombre de fois où on entend ce type de conversation. Tu as vu comme un tel, il fait ça ou ça. Mais va le voir. La confrontation directe. Mais parfois, on le voit dans le texte, la confrontation ne marche pas dans un premier temps. Mais Jésus reste prudent et discret. Et deuxième élément, il encourage à agir dans un cercle vraiment restreint. Avec le péché des autres, Jésus nous enseigne à faire preuve de discrétion. C'est vrai qu'avec notre propre péché, on peut faire preuve de franchise et de transparence, mais avec le péché des autres. Très souvent, je le disais, nous parlons librement de ce qu'un frère ou une sœur a fait ou a dit ou n'a pas dit dans telle ou telle situation. On donne libre cours à nos émotions, à notre révolte. On cherche de la compassion, mais t'as pas vu comment il m'a parlé. On rallie nos amis à notre opinion sur l'autre dans cette situation. Au lieu d'obéir à Jésus, on répand l'offense encore plus largement. C'est un premier élément hein, pour notre culture d'Église humble, saine, qui cherche non pas à propager ce qui est mauvais, mais qui cherche à régler, à vouloir honorer le Christ. Quand on parle directement à un frère ou à une sœur, on se protège du commérage. On se protège de la médisance. Ça veut dire raconter des propos vrais, hein, mais qui sont nuisibles. On se protège de la calomnie, répandre des mensonges ou qui grossissent. Ce sont des fléaux destructeurs de relations authentiques dans l'Église lorsqu'on commence à en parler aux autres. Alors posons-nous cette question. En as-tu parlé à la personne concernée? Ou peut-être, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Cherches-tu vraiment la restauration, à gagner ton frère? Ou cherches-tu à te servir de cette situation? Veux-tu repousser sur les autres? Ah non, c'est pas à moi de régler cette situation. Veux-tu repousser sur les autres la responsabilité de Dieu, que Dieu t'a donné de restaurer, de travailler ce sujet-là? Est-ce que tu ressens de la compassion ou de la rancune? Et le principe reste le même hein, dans le verset 16. Si la confrontation n'aboutit pas, que le fautif ne se change pas de comportement, Jésus d'agir avec un cercle, mais qui est toujours restreint, 2-3. Que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Jésus cite hein, une loi mosaïque, il cite Deutéronome pour être précisément, Deutéronome 19, verset 15, qui exige plusieurs témoins pour juger la situation, pour éviter des fausses accusations. Reconnaître que notre regard peut-être est limité, biaisé sur la situation. Accorde le bénéfice du doute ou de la grâce. Mais l'objectif de ce principe de Jésus reste de restaurer. Pas de répandre, de restaurer. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il ne s'agit pas de remplir un devoir ou de se décharger ou de punir, mais de restaurer. Et là, j'aimerais nous rappeler que fondamentalement, c'est seul Dieu qui œuvre dans les cœurs. On n'a pas la responsabilité de changer l'autre personne, mais on peut l'amener à reconnaître sa situation. Dieu nous utilise comme un miroir, peut-être. Dieu utilise puissamment nos conversations les uns avec les autres. Je me rappelle le nombre de fois où j'ai eu des conversations avec mon frère, mon collègue, pasteur, où on est redevable, où il m'a dit, Jésus, est-ce que cette attitude-là, cette pensée est juste? Ça travaille notre cœur, c'est le Seigneur, par son esprit. Jésus nous confie à tous cette responsabilité de nous protéger, de ne pas ignorer, de ne pas minimiser le péché pour maintenir une paix superficielle. Dieu veut nous conduire à la repentance et à la restauration. La repentance, c'est cette réalité du péché, cette conscience qu'on a offensé Dieu, qu'on a offensé l'autre, qui nous appelle à changer de cœur et d'attitude en comptant sur Dieu. C'est un retour à Dieu, c'est un demi-tour. On a vraiment ce désir de « Ouais, je réalise que j'ai mal agi, mais je veux demander au Seigneur qu'il me pardonne et qu'il continue à travailler mon caractère, qu'il ne reflète pas sa gloire. » Jésus évoque vraiment ici une gestion privée, restreinte. Mais parfois, c'est la suite hein, du texte, pour protéger, il y a la nécessité d'aller plus loin pour maintenir l'unité, versets 17 et 18. Il y a 3 étapes, hein, mais Dieu veut que tout, pas que tout péché soit exposé au grand jour. Souvent, on voit ça. Mais non, si certaines fautes graves persistent, ce frère ne change pas. Là, il y a la nécessité d'une dénonciation publique, mais toujours dans cet esprit de repentance, pas pour humilier ou pour embarrasser, mais pour restaurer. Parfois, un péché non reconnu ou ne repenti devient public et exige une réaction collective de l'Église. Il y a des enjeux, les dégâts peuvent potentiellement être graves si elles ne sont pas traitées. Verset 17, hein, Jésus nous dit, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. » Ici, par Église, il faut comprendre l'assemblée de croyants rassemblés. Imaginez les premières églises, tellement nombreuses et vivantes. Je me suis posé la question, mais pourquoi toute l'Église devrait être impliquée dans cette situation? Parce que l'Église, dans son fardeau pour les perdus, essaiera de le ramener à la raison, celui qui a transgressé. Lorsque le groupe ensemble s'oppose à ce comportement qui est destructeur, cela peut aider à la repentance. Parce que l'action collective, quelque part, montre aussi cette autorité spirituelle particulière qu'il nous donne devant Dieu en tant que corps de Christ. L'Église est appelée à être sensible à la voix de Dieu, à la direction de Dieu. Nous sommes appelés à prendre des décisions que le Seigneur prendrait. En fait, quelque part, plus que de se dire « Ah, ça me dérange que quelque chose soit public », mais ça montre en fait la gravité d'un péché. Ça peut montrer la nature trompeuse du péché. Ça protège le corps. Ça enseigne aussi la sainteté de Dieu. On se présente devant Dieu qui est saint et on est appelé à être saint. Je sais que ce sujet de la discipline d'Église est en Occident et peut-être ça explique aussi pas mal de choses et négligé, mais pourtant tellement importante. Dissimuler un péché, même privé, c'est comme cacher une bombe à retardement. Je me rappelle personnellement un cas où un frère, ça, je vous rassure, c'est pas l'Église, un trésorier se gardait petit à petit une part des offrandes dans sa propre poche. Ce péché caché aurait pu détruire l'Église. Mais grâce à la transparence du Conseil d'Église et à la nécessité d'avoir une action collective où l'Église a prié, a cherché la sagesse, l'amour, le discernement, un processus, il y a une restauration qui a pu être possible pour ce frère. Et aujourd'hui, cette personne fait toujours partie de l'Église. Il y a un travail plus profond face à la sainteté de Dieu, face au sérieux, même dans la gestion des finances, a pu se faire dans cette Église. C'est important de traiter le péché. Satan voudrait nous persuader, mais rien ne va changer, il a toujours été comme ça, non ? Jésus nous invite à parler de grâce, d'espoir, de pardon, de liberté, la puissance de Dieu, de la bonne nouvelle, du Saint-Esprit, de Christ ressuscité, de Christ victorieux. La discipline face au péché nous apprend à gérer le péché de manière responsable, ensemble, devant Dieu. Alors souvent, on va trop rapidement, et s'il refuse d'écouter, ça ne signifie pas automatiquement l'exclusion, mais c'est un processus. L'Église est informée, elle exprime son inquiétude, elle agit collectivement et protège la communauté d'un danger potentiel. Je suis conscient que de parler de ça, ce n'est pas évident, on n'en vit pas tous les jours, heureusement. Ça peut créer des désaccords, des divisions, des tensions émotionnelles. Les responsables, ils sont trop sévères dans cette situation. Il y a des alliances, il y a des amitiés dans tout cela. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un appui solide dans l'Écriture qui nous appelle à être juste et vrai. De la clarté. Ça nous appelle à aussi avoir de la confiance dans les responsables. Ça nous engage aussi à travailler, à préserver l'unité dans l'amour. Parce que l'objectif n'est pas la punition, l'objectif c'est la restauration, la protection du troupeau, c'est de peut-être de faire attention à un loup ou un faux docteur, etc. pour la réputation et la gloire de Dieu. Et parfois, effectivement, Jésus nous dit, peut-être, il y a l'exclusion d'un membre persistant dans une attitude de rébellion. Ce n'est pas un jugement sur sa foi, mais c'est un acte mesuré en réponse en l'absence de repentance. Il le place d'ailleurs comme un étranger de la communauté. Il ne fait plus partie de nous. Mais notre amour et notre grâce restent néanmoins présents envers ce frère ou cette sœur, comme envers toute personne non croyante. Ce passage, je trouve, souligne avec force combien Dieu prend au sérieux le péché, prend au sérieux tout ce qui ne le reflète pas. Alors je me suis dit, mais quelle place le Seigneur dans tout cela? Et c'est là où je trouve, sont extraordinaires les versets 19 et 20, agir en demandant au Seigneur. Je relis les versets 19 et 20. En vérité, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, on voit quoi? La prière est centrale. Et trop souvent, on cite ce verset hors contexte. On cite ce verset, ah, c'est bien, on est ensemble, on prie, Dieu va nous accorder. Non, mais là, il est question du péché. Il est question d'une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et il souligne le sérieux qu'on doit avoir avec. Le mot grec pour s'accorder est à l'origine du mot symphonie. Il y a l'idée d'un « on est d'accord ensemble ». C'est le fruit d'une discussion éclairée par le Saint-Esprit. On a besoin de demander l'aide du Seigneur. Prier, c'est demander à Dieu d'agir dans une situation délicate où le péché peut-être a été révélé. Il n'est pas facile de demander la prière d'un frère lorsqu'on se sait qu'on a un domaine de notre vie qui a besoin d'être travaillé. Pour une habitude qui est peut-être tenace. Mais Jésus, là, nous dit, bah, allez voir un frère prier, et puis Dieu est là, et Dieu répond, et Dieu va agir. C'est une des actions les plus puissantes lorsque deux frères ou une église entière puissent s'accomplir ensemble en priant pour quelque chose qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Traiter le péché, c'est pas facile, mais Jésus promet quoi ? Je suis là au milieu de vous. Vous voulez traiter sérieusement quelque chose qui n'honore pas le Seigneur parmi vous ? Voilà, priez, demandez, je suis là avec vous et je vais travailler dans vos cœurs et dans montrant quelque part ses mains percées. Cela montre à quel point cette fonction de discipline menée dans la prière, dans l'attachement à Dieu, est essentielle au témoignage de l'Église. Je trouve qu'on retrouve cette même idée de la prière dans Jacques. Vous connaissez peut-être ça, hein, mais confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. On est dans cette même idée. Il y a le péché, oui, mais retrouvez-vous, priez pour cela. Quelque chose, une habitude que j'arrive pas à m'en détacher, ben, on revient à ce qu'on a dit dimanche dernier, accompagner, aller retrouver votre grand frère ou votre compagnon de route, prier, et le Seigneur est là et il va agir. La prière collective devient le moteur de ce processus de la guérison et du travail autour du péché. Alors, conseil pratique, c'est un peu une parenthèse. Si on a l'habitude de citer Matthieu dans nos prières et que ce n'est pas le contexte de peut-être d'un péché, prenez plutôt l'habitude de citer Matthieu 28 qui dit « Jésus, je suis avec vous tous les jours ». C'est la même chose. Mais ne dites pas deux ou trois. Non. Oui. Dieu veut agir. Et enfin, agir en comptant sur la grâce du Seigneur. Versets 21 et 22. Je trouve, j'aime énormément la fin. J'aime la franchise de l'apôtre Pierre qui est conscient de la nature humaine et qui vient poser une question directe à Jésus. Relisez avec moi, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?»« Sept fois ?» Jésus lui dit, « 77 fois. » Sept fois. Pierre pressent déjà que le péché répété blesse profondément nos relations et qu'il faut apprendre à restaurer, à pardonner encore et encore. Il comprend que la vengeance n'est pas la voie pour un disciple. Et je trouve, Steven nous a introduit ce culte avec Matthieu, ou avec Pierre qui va voilà, renier son maître trois fois. Je crois que ça parle à son cœur quand il... Est-ce qu'il y a une limite à cette restauration ? Est-ce qu'il y a une limite à la réparation possible ? Et là, on voit que Jésus dépasse 77 fois 7 fois. Très symboliquement, hein, le chiffre 7, on sait que c'est la perfection, mais dire 77 fois 7 fois, c'est vraiment l'idée de pardonner à l'infini. Amen ? Facile, hein ? Non ? Cela montre aussi que la restauration et le pardon ne sont pas à prendre à la légère. Jésus nous demande de pardonner, de travailler à la restauration, et devrait quelque part être infini, reflétant cette grâce inépuisable de Dieu envers nous. J'ai un peu cette image de pardonner infiniment, c'est comme un robinet qui ne se ferme jamais, l'eau coule, la grâce coule infiniment, sans cesse, nous purifie et nous renouvelle. Voilà ce qui devrait nous animer. Et notre passage, on ne l'a pas lu, mais notre passage termine avec une parabole des plus émouvantes, hein, un roi qui pardonne à un serviteur une dette immense, vous vous rappelez de cette histoire, et qui attend que son serviteur pardonne aussi à ses petits créanciers, et qui d'ailleurs va pas le faire. Et cette parabole est un appel puissant à imiter la générosité de Dieu. La grâce infinie, à ne pas laisser nos cœurs s'endurcir face aux péchés commis contre nous ou que nous ayons pu commettre. D'ailleurs, si vous lisez Galates 5 et 6 qui nous parle à marcher par l'esprit et non pas par la chair, il y a cette même démarche spirituelle de compter sur le Seigneur et sur sa grâce agissante. Alors nous sommes appelés à chérir le salut comme un trésor de grâce immérité. On devrait continuer à être émerveillé par l'évangile et la bonne nouvelle parce que c'est là où on sait, oh, Dieu nous a pardonné infiniment. Et nous devons être animés d'un même désir de pardonner à un frère ou à une sœur dans l'Église qui nous a blessés, qui nous a ignorés, qui nous a... Bon, bref, tout ce que vous voulez. Et je crois que c'est notre émerveillement de cette grâce immense que le Seigneur a eue envers nous qui va nous aider à nous voir aussi avec le bon regard. Dans une culture d'église où le péché est abordé avec honnêteté, mais aussi avec grâce et avec sagesse. Et je crois qu'une telle culture où on ne ferme pas les yeux sur le péché, mais où on le traite, produit des fruits visibles. On prend soin des autres. On est attentionné dans nos relations. On va s'encourager. On va faire du bien. On va s'accompagner fidèlement. Et on va, quelque part aussi, témoigner de la grâce et de la bonne nouvelle. C'est un puissant témoignage. Alors, je termine avec quelques applications à emporter peut-être ensemble. Si une situation de péché est laissée sans intervention, cela peut entraîner des divisions. Et nous sommes encouragés, le texte nous encourage à aller directement voir la personne, avec amour, avec humilité, comme Jésus l'enseigne. Peut-être préparez-vous en amont, vous dites « Ah, j'aimerais vraiment parler à un tel parce qu'il m'a blessé un jour. » Mais préparez-le en priant. Peut-être pour avoir des paroles tempérées, pour savoir avec sagesse comment l'aborder. Peut-être demander à quelqu'un de vous soutenir dans la prière pendant ce processus. On le sait, des comportements inappropriés entre nous peuvent créer une atmosphère qui est toxique. Et si on est témoin d'un acte injuste, d'une parole blessante, n'hésitez pas à en parler, mais directement avec cette personne. Impliquez, utilisez des phrases telles que « je me sens mal à l'aise lorsque tu fais telle ou telle chose ». Pour entrer dans une conversation constructive, et à la fin de la conversation, prier ensemble pour renouveler votre relation. On le sait, une faute non résolue entre membres, mais par exemple de la famille, peut s'accumuler en ressentiment. On remet à plus tard. Mais peut-être qu'il est nécessaire d'organiser un temps de façon assez intentionnelle où chacun aura l'occasion de revenir sur cette situation où les voix se sont échauffées et prier pour cela. Débuter par la prière pour faciliter l'échange. Mais il y a la nécessité de travailler à cela. Il y a des malentendus en public. On le sait, donc quand on travaille ensemble, le nombre de malentendus peuvent rapidement dégénérer en querelles inutiles. Mais encourageons-nous autour d'un dialogue respectueux qui se donne pour but de résoudre nos différends en se basant sur la parole de Dieu. Encourageons-nous, comme le dit, on l'a lu dans Jacques, la confession réciproque, la prière mutuelle comme moyen de guérison. Gardons l'importance de marcher par l'esprit et demandons à Dieu de discerner en nous ces mauvais fruits que Dieu a encore besoin de traiter. Cette démarche que Jésus nous demande de vivre est fondée sur une grâce immense, celle qui nous pardonne sans fin. Et cette grâce est offerte par tous. Je résume, je termine. Dans l'Église émerveillée par le salut, nous sommes responsables de protéger la communion fraternelle en confrontant le péché avec grâce. Et je termine avec cette suite de versets de Jacques. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je trouve c'est extraordinaire, il y a la vie qui semble se dérouler, mais il y a la nécessité de protéger, il y a la nécessité de traiter le péché.